trompe pas. Telle est la question. Et c'est pour ça que j'ai dit, il me semble que c'est un titre qui est accrocheur, surtout quand on veut parler un peu de Noël, naître ou ne pas naître, telle est la question. Vous savez, on est toujours impressionné lorsque on pense, par exemple, aux bébés qui naissent et tout ce qu'on peut avoir comme circonstance qui entoure vraiment ces bébés-là. Et, à titre d'exemple, si je prends un exemple, moi, bon, c'est pas moi, là, je vous le dis tout de suite, là, dans cette pouponnière-là, ce n'est pas moi. Qu'est-ce que je sais sur ma naissance? Bien, je sais en partie ce que mon baptistère me dit, et je sais aussi en partie sur ce que mes grands frères et mes grandes sœurs m'ont dit parce que je suis le bébé de 8, un huitième. C'est tout ce que je sais sur ma naissance, les circonstances et tout ça. Mais, puis mon baptistère va me dire quelle année je suis né, entre 1950 et 1960. Donc, amusez-vous, là, entre les deux. Et, bien entendu, pendant un certain temps, on soulignait mon anniversaire. Maintenant, j'y tiens beaucoup moins. Peut-être que vous êtes comme moi. Mais pourtant, il y a un anniversaire que, à chaque année, on veut se plaire à célébrer et à souligner. C'est vraiment l'anniversaire de Jésus. Et on l'a chanté dans tous les chants qu'on a chanté ce matin, et même dans les partages un peu ce matin, on a vraiment parlé de ce personnage qui a marqué l'histoire. Et souvent, de moins en moins, j'ai cru entendre aux nouvelles qu'on pouvait même trouver des crèches. Saviez-vous ça? C'est de plus en plus difficile de trouver des crèches qui nous représentent la scène de la nativité et qui est installée habituellement en dessous d'un sapin. Mais si on retrouve les sapins, si on retrouve les scènes des crèches comme ça, c'est pour nous rappeler l'histoire d'un personnage qui a marqué vraiment l'histoire en tant que telle. Et on en parle encore après plus de 2000 ans, c'est-à-dire l'histoire de Jésus. Et on est toujours frappé lorsqu'on pense à ce personnage-là, à son histoire de sa naissance, qui est né dans une étable, qui a été couché dans une mangeoire, entouré d'animaux et tout ça. Et c'est quelque chose qui vient toujours nous chercher en cette période plus particulièrement. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais faire, c'est quelque chose de particulier. Moi, j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui ce que Jésus a eu à dire lui-même. Et c'est important, là. Moi, je n'ai pas été capable de dire grand-chose sur ma naissance. Je ne m'en souviens pas. Mais là, j'aimerais qu'on regarde ce que Jésus a eu à dire lui-même sur sa propre naissance. Et pour ce faire, je vous invite à tourner dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 18. Vous allez me dire, oui, mais Benoît, on fait un méchant bout. Il me semble que la naissance de Jésus, ça devrait être au début. Oui, c'est vrai. Mais lorsque Jésus parle de sa naissance, c'est beaucoup plus loin. Et au chapitre 18, pour vous mettre en contexte, il s'agit d'une rencontre à laquelle une rencontre qui est un peu tragique, j'ai trouvé cette image-là, elle n'est pas nécessairement très représentative, de Pilate. Le gouverneur romain, alors que Jésus va comparaître devant Pilate sous des accusations qui sont portées. Des accusations qui sont portées à son égard relativement, notamment, à sa royauté. Et Pilate doit analyser tout ça et voir c'est qui cet énergumène-là qui est devant moi, que les Juifs, que les autorités juives m'ont amené. Et il va questionner Jésus, il va échanger avec lui, parce que vous savez quoi? Si Jésus est un roi, ça peut être dangereux. Et pour Pilate, c'est très important pour lui de s'assurer de la dangerosité de cet homme-là. Et Pilate, lorsqu'il va jaser avec Jésus, va bien réaliser une chose, c'est que Jésus, il n'a pas ben d'armée avec lui. Jésus n'est pas vraiment un grand dirigeant militaire. Il n'y a pas beaucoup de soldats, puis il n'y a pas beaucoup d'armes. À vrai dire, il n'y a rien. Donc, lorsque Pilate échange avec Jésus comme ça, certainement que pour Pilate, ça l'a dû le réconforter. Ça l'a dû lui calmer les nerfs du genre, « T'es pas dangereux, toi, mon homme. » Mais pourtant, lorsqu'il va interroger Jésus sur sa royauté, Jésus va dire au verset 36 du chapitre 18, il va dire, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Imaginez un instant, Pilate, ce gouverneur romain-là, qui interroge Jésus et qui se fait dire par Jésus, mon royaume. Donc, si j'ai un royaume, c'est parce que je suis roi. Mais il dit à Jésus, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça a dû être drôle un peu dans la tête de Pilate. Pourquoi? J'ai affaire à un roi surnaturel. J'ai affaire à un roi dont le royaume n'est pas ici-bas. Il n'est pas dangereux pour l'Empire romain, mais c'est un peu un uluberlu parce qu'il y a un royaume, mais il n'est pas de ce monde-là. Mais pour les Juifs qui, eux, l'avaient accusé, vous savez, d'entendre dire que Jésus, effectivement, était le roi des Juifs, vous savez ce que ça disait aux Juifs? Ça disait que Jésus était le Messie. Ce Messie qui était annoncé depuis si longtemps, lorsque Jésus affirmait qu'il était roi, comme il l'a fait à Pilate, pour les Juifs, ça disait, « Voilà, vous avez devant vous votre propre Messie. » Et Jésus, en jasant avec Pilate, va lui faire une affirmation que moi j'appelle une affirmation choc. Parce que là, il va arriver puis il va parler à Pilate de sa propre naissance. Il va arriver avec une phrase qui est dans ma tête, c'est pour ça que j'ai dit une affirmation choc, en disant à Pilate, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour… » On arrête là. Arrêtez ça, mettre un arrêt stop. Parce que souvent, quand on lit ces passages-là, on défile, on lit, puis on s'en va plus loin. Mais j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur cette phrase clé. « Je suis né et je suis venu dans le monde pour… » La version Darby, qui est une version un peu plus littérale, va dire « Moi, je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde. » Connaissez-vous quelqu'un dans la salle ce matin qui pourrait dire « Moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour quelque chose. » Qui oserait faire une telle affirmation? Il n'y a aucune personne ici ce matin et sur la planète qui pourrait dire ça. Que je suis venu au monde pour ceci, que je suis venu au monde pour ceci ou pour cela, c'est impossible. Et si Jésus a pris la peine de dire ça, réfléchissez-y un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Jésus, à quelque part, avait quelque chose à voir avec sa propre naissance. Comprenez bien le sens? Je suis né, je suis venu dans le monde pour quelque chose. Ça veut donc dire que Jésus avait quelque chose à voir avec sa propre naissance. Oui, Jésus est né. Ça nous rappelle vraiment son humanité. Mais lorsqu'il va dire qu'il est venu dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il provenait d'ailleurs. Si je vous dis, moi, en 2001, moi, je suis venu à Trois-Rivières pour mon travail. Mais d'où est-ce que je venais avant? Est-ce que quelqu'un le sait? Bien, j'espère que Suzanne le sait. Je venais de Québec. Donc, si je vous dis, en 2001, je suis venu à Trois-Rivières pour mon travail, c'est parce que j'arrivais de quelque part ailleurs. C'est vrai? Êtes-vous d'accord? Bon, ouf, j'ai eu peur. Donc, c'est parce que je suis venu de quelque part ailleurs. Donc, Jésus, quand il prend la peine de dire qu'il est né et qu'il est venu dans le monde, dans ce monde pour, c'est parce que lui aussi, il est venu d'ailleurs. Ça affirme donc quelque chose qui est très important, c'est qu'il existait avant sa naissance. Jésus, dans sa personnalité, dans son caractère, existait même avant qu'on en vienne à voir ce petit bébé-là dans une mangeoire. C'est une affirmation choc, parce que c'est le seul qui pouvait affirmer ça. Libre à vous de le croire ou non, mais il faut bien comprendre que c'est ce que Jésus a dit, ça c'est certain. Et c'est tellement vrai que pour Jésus, c'était tellement clair, puis il l'a répété, que dans l'Évangile, selon Jean, si vous voulez tourner, pour ceux qui veulent regarder dans leur Bible, au chapitre 17, lorsqu'il va faire ce qu'on appelle la prière sacerdotale, il va dire au verset 5 du chapitre 17, il va dire, « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, quoi? Avant que le monde soit. » Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Jésus, à plusieurs reprises, a affirmé qu'il n'était pas qu'un Jésus en termes de humain, mais qu'il y avait quelque chose dans une préexistence avant même qu'il naisse. Donc, c'est important de se rappeler en cette période-ci de l'année que l'enfant qui est né, qu'on a chanté qui est né à Noël, était une personne qui existait au temps ancien ou au jour d'autrefois, comme on voit dans la parole de Dieu. Et ça, c'est unique. C'est le seul dans toute l'histoire de l'humanité qui a pu dire ça. Mais en plus, il a pu le dire, mais en plus, quand on regarde dans l'Ancien Testament, sa venue, on l'a même chanté ce matin, que sa venue était annoncée à l'avance même par les prophètes. Et Jésus a confirmé qu'avant de naître dans cette crèche, d'être dans cette mangeoire, il existait auparavant. Mais sa venue dans le monde, je suis né dans le monde pour, ça détermine quoi? Le but de sa venue. Et le but de sa venue, c'est qu'il est venu, je suis venu dans le monde, dit-il, pour rendre témoignage à la vérité, au verset 37b. Jésus est venu pour rendre témoignage. Et vous savez, c'est quoi un témoin? Un témoin, c'est quelque chose qui peut rapporter ce qu'il a vu, ce qu'il connaît et ce qu'il a entendu. C'est ce qu'un témoin peut faire. Donc, Jésus est venu pour rendre témoignage, mais témoignage à quoi? Témoignage à la vérité. C'est quelque chose de penser qu'un enfant né dans une crèche, dans une étable, placé dans une mangeoire, qui a grandi, qui se ramasse un jour devant Pilate et qui dit, alors qu'il est au terme de sa vie terrestre, il va dire, « Moi, je suis venu ici, dans ce monde-là. Je n'étais pas ici avant, je vais le dire dans mes mots. Je n'étais pas ici. Je suis venu ici, mais pour rendre témoignage à la vérité. » Et ça, c'est très important. Parce que vous savez, on vit dans un siècle où, allez dans une librairie voir les livres de spiritualité, puis vous allez voir que les vérités, il y en a un paquet. Ta vérité est aussi bonne que la mienne. Bizarre, parce que Jésus ici nous dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Donc, il n'y a pas de place avec Jésus dans ce qu'il nous dit pour commencer à en avoir plusieurs. Il n'y a pas de place avec ce que Jésus nous dit pour commencer à faire du magasinage, puis choisir dans la Bible, choisir dans le Coran, choisir dans un, l'autre au niveau spirituel, ce qui fait mon affaire. Il n'y a pas de place. Jésus dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et la vérité, ça vient dire que ça enlève toute possibilité de ce qu'on appelle souvent le relativisme. Ah, oh, c'est relatif. Là, ça, c'est toi, tu vois ça de main. Vous savez, c'est un peu comme si je disais, là, Adama, viens à côté de moi. Mais c'est là, non, mais vous comprenez tous, vous connaissez Adama. Si je disais, là, sans. Puis je dis ça bien simplement. Adama, t'es noir. Adama, je suis blanc. Tu es clair? Non. Adama, il n'est pas tout à fait noir. Puis moi, je ne suis pas tout à fait blanc. On peut comme ça. Oh, ben c'est relatif. Là, toi, tu le vois comme ça. Moi, je ne le vois pas comme ça. Non. Avec Jésus, il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité uniquement. Et ce que Jésus a dit il y a plus de 2000 ans est encore vrai aujourd'hui. Vous savez, Martin Luther, qui est un grand réformateur, que c'est à lui qu'on doit la traduction de la Bible en allemand, a dit ceci, il a dit, « Le message de la Bible n'est pas antique ou moderne. » Tiens, en voulant dire, on va s'arranger avec ça. Le message de la Bible n'est pas antique ou moderne. Non, il est quoi? Éternel. C'est ça, le message de la Bible. Et c'est pour ça que Jésus vient pour et dit, « Moi, je suis venu, mais c'est pour rendre témoignage, dire ce que je sais, ce que je connais, ce que j'ai vu. » Par rapport à la vérité. Et il n'y a personne de plus fiable que Jésus pour nous présenter la vérité de Dieu. Et ça nous amène à parler maintenant de la raison de sa venue. Parce qu'effectivement, notre besoin à vous et à moi, c'est de connaître vraiment le vrai Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, en venant pour parler de la vérité, la seule et unique, c'était pour nous révéler qui vraiment est Dieu. Et ceux qui ont leur Bible, je vous invite à tourner dans l'Épître aux Hébreux. On va revenir après dans Jean. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1. Il y a un beau verset ici qui nous rappelle cela aussi. Hébreux, chapitre 1, et le verset 1. Il est écrit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. » On a parlé tout à l'heure des prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et il l'a établi héritier de toutes choses par lui, il a aussi créé l'univers et ainsi de suite. Voyez-vous, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par qui? Par le Fils. Et Jésus est venu rendre témoignage par rapport à la vérité. Et c'est dans les derniers temps que Jésus est venu nous parler de Dieu. Mais quelqu'un pourrait dire, oui, mais la vérité sur Dieu, oui, mais la vérité sur quoi? Ben, c'est pas compliqué. Quand on regarde tout ce que Jésus a dit pendant tout son ministère ici-bas, et dans toutes ses paroles, dans toutes ses références qu'il faisait même à l'Ancien Testament, il voulait nous amener les gens qui l'écoutaient à comprendre qu'il y avait une seule vérité, et la vérité sur la nature de Dieu. Enlever aux gens qui l'entouraient des notions qu'ils avaient sur Dieu, en disant, non, moi je vous présente qui vraiment est Dieu, un Dieu qui dans sa nature est saint, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est amour, mais qu'on ne peut pas le dénaturer, Dieu. Mais en même temps, Jésus a beaucoup aussi parlé de la vérité sur la nature de l'homme. L'être humain créé à l'image de Dieu, mais que dans un geste d'indépendance, de rébellion, s'est retourné par rapport à Dieu. Jésus est venu aussi nous parler de la vérité concernant le problème de l'homme. Parce que justement, à cause de son comportement, depuis sa création, depuis sa chute, bien, qu'est-ce que ça l'a amené? À cause de sa propre nature, bien, ça amène une séparation avec Dieu. C'est ça que Jésus est venu dire. Ah, ça ne faisait pas l'affaire de des gens, mais ce n'est pas grave. Il disait, je vous rends témoignage de la vérité. C'est simple comme ça. Et votre problème, vous en avez tout un. Vous êtes séparés de Dieu à cause de votre propre nature que vous avez. Mais heureusement, Jésus est venu nous parler aussi de la solution de Dieu. Parce que Dieu, justement, en voyant l'être humain dans le bourbier dans lequel il était, avait une solution pour être réconcilié. Et quand on parle de Noël, on voit le début de tout ça. On voit la naissance de cet enfant qui a été annoncé si longtemps à l'avance et qui vient pour régler ce problème-là. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, au verset 3, il est dit ceci. Jésus a dit, « Or, c'est ici la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Important. Jésus veut que l'on connaisse le seul vrai, véritable Dieu. Et il va ajouter par la suite, « Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. » C'est pas beau? Jésus révèle le vrai Dieu. Jésus révèle son Père. Jésus montre vraiment qui est Dieu dans toute sa nature. Donc, ce matin, si vous désirez connaître Dieu, vous désirez connaître le seul Dieu véritable, vous n'avez pas le choix de commencer par porter attention au témoignage de Jésus. Parce que c'est la raison pour laquelle il est venu, pour rendre témoignage à la vérité. Et ça a tout un impact. Parce que si vous prenez le temps d'écouter ce que Jésus a à vous dire, ça va avoir un impact dans votre vie. Parce que l'impact de ce témoignage-là, c'est que vous allez avoir des choix à faire. Vous allez devoir, dans un premier temps, prendre une décision. C'est-à-dire accepter personnellement cette vérité-là. Parce que Jésus est venu pour rendre témoignage. Il est venu pour dire, il est venu pour prouver des choses. Mais vous, ce que ça a comme impact, c'est que ça devrait vous amener à accepter personnellement cette vérité-là, mais aussi par la suite, bien, de vivre en conséquence. Parce que quand on connaît la vérité, c'est certain qu'on ne veut pas faire autrement que de suivre ce que l'on a connu. Et c'est pour ça que Jésus va terminer ce verset-là en disant, à la fin du verset C, « Quiconque et de la vérité, écoute ma voix. » Jésus, lorsqu'il s'adresse à Pilate et qu'il prend la peine de lui dire, « Moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Il va ajouter, « Quiconque maintenant est de la vérité, écoute ma voix. » Il fait un appel direct à la conscience de Pilate. « Hey, Pilate, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et vous savez, dans la parole, le sens d'écouter, ce n'est pas juste nécessairement là, porter l'oreille. Non, non, c'est quelque chose qui amène un changement, qui amène même une obéissance. Donc, Jésus, en faisant ça, s'adresse directement à Pilate et certainement à sa conscience. Moi, j'ai une question à vous poser ce matin. Lorsque vous pensez à la voix de Jésus, c'est quoi la voix que vous entendez? Est-ce que c'est la voix d'un petit bébé qui est dans un berceau, qui était dans la crèche puis qui pleurait? Est-ce que c'est la voix d'un enfant qui était sage comme ce n'était pas croyable? On n'en a pas vu d'autres sur la terre, c'est certain. Est-ce que c'est la voix d'un grand personnage qui a dit des choses tellement belles? Ou si c'est la voix de celui qui dit « Voici la vérité, et si vous êtes dans la vérité, bien, vous allez écouter et obéir à ce que moi je vous dis. » Et vous savez, il faut être très prudent par rapport à la manière qu'on écoute. Parce que Jésus, dans tous ses enseignements, a démontré des choses qui étaient très claires. C'est que ce n'est pas tout le monde qui est de la vérité. Ça, c'est dur à entendre. Mais Jésus l'a clairement démontré, c'est pas tout le monde qui est de la vérité. Même en fait, la plupart des gens ne sont pas de la vérité. Parce qu'ils ne veulent pas accepter ce que Jésus a déclaré, ce que Jésus a enseigné. Vous savez, lorsque Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », j'ai déjà vu ça à beaucoup de milieux, d'endroits, moi, des places, mais il n'y avait pas la fin du verset. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'était tout beau. Mais par la suite, ça dit quoi? « Nul ne vient au Père que par moi ». Ça, on l'évacuait, parce que ça venait de dire qu'il y avait un seul chemin, une seule vérité qui donne la vie éternelle. Donc, les gens n'accepteront pas d'être de la vérité, parce qu'ils ne veulent pas accepter ce que Jésus a déclaré. Et les gens n'accepteront pas parce qu'ils vont vouloir aussi apaiser leur conscience. Ils vont vouloir se faire un Jésus à l'image de ce qu'eux désirent dans leur vie. Un Jésus qu'on aime bien voir, un Jésus qu'on est convaincu qu'il a fait tellement de bien, et un Jésus même à la limite qu'on pourrait vouloir entendre parler à chaque Noël, parce que c'est une tradition. Et on y tient à cette tradition-là, même si on est prêt à rejeter l'essence même de son sens. Pilate est là devant Jésus puis entend ça. « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et Pilate va donner une réponse. Une réponse qui a même laissé une place dans l'histoire, je dirais, qu'on entend encore aujourd'hui. Et sa réponse, c'est « Qu'est-ce que la vérité? » Bien, voyons, Pilate. On ne sait pas quelle attitude il y avait à ce moment-là exactement. Statut sarcastique? Statut vraiment qui s'interrogeait? Mais toujours est-il que Pilate était là à quelques pieds, avait en avant de lui la vérité même incarnée. On a chanté le Verbe incarné, la parole incarnée. Jésus était là à dire à Pilate, tu l'as devant toi, Pilate, la vérité. Mais malheureusement, on sait l'histoire de la suite de l'histoire. Même si Pilate savait que Jésus était innocent, bien, il n'a pas voulu prendre position. Et en pensant même se laver les mains, ça n'a rien changé. Ce n'est pas parce qu'il se lavait les mains qu'il était moins coupable. Parce qu'en se lavant les mains et en livrant Jésus, il demeurait, même s'il pensait qu'il était innocent de ce sang-là. Voyons, ne pas prendre position, ça équivalait à « je ne veux rien savoir ». Mais vous savez, Pilate a dû prendre une position. Et moi, ce matin, on est en 2015, et moi, je me dois de vous poser la question. Est-ce que vous écoutez vraiment comme ce qu'on a dit? « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Est-ce que vous êtes comme Pilate, peut-être, qui avait entendu bien des choses, mais qui n'avait pas voulu prendre position? Est-ce que vous êtes comme le peuple qui était même en révolte contre Jésus? Il peut y avoir tout ça ici dans la salle ce matin. Mais il peut y avoir aussi des gens qui disent « Non, moi je sais que je suis de la vérité. » Et ça a un impact dans ma vie. Et c'est pour ça que au travers de cette rencontre et surtout au travers de ces paroles que le Seigneur Jésus a dit, ça là, doit avoir des applications maintenant qui nous concernent. Mais pour ça, vous devez répondre aussi, dans votre cœur. Qu'est-ce que vous faites de Jésus? Êtes-vous prête à l'accepter tel qu'il s'est présenté ou vous voulez le garder à l'image que vous, vous voulez vous en faire parce que pour l'instant, ça fait votre affaire? Bien, c'est sûr que notre prière, c'est que vous l'acceptiez selon ce qui s'est présenté vraiment. Et si c'est le cas, si vous êtes quelqu'un qui est de la vérité, ça fait bizarre à entendre sur le coup, hey, « je suis de la vérité », mais vous comprenez que Jésus, lorsqu'il dit « quiconque est de la vérité, écoute ma voix », il y en a juste une vérité, tout simplement, bien, si vous êtes dans la vérité par rapport à tout ce que Dieu a dit, Jésus a dit sur Dieu, sur la nature de l'homme, et ainsi de suite, bien, ça veut dire que vous le connaissez vraiment intimement. Ça veut dire que, pour vous, vous êtes prête à écouter sa voix. Vous êtes prête à obéir à ce qu'il vous dit. Et Jean, dans l'Épître de Jean, chapitre 17, verset 17, lorsque le Seigneur a prié pour les gens qui étaient dans la vérité, vous savez ce qu'il leur a dit? Il a dit, « Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Si ce matin, vous êtes dans la vérité, vous connaissez Jésus personnellement, bien, le Seigneur a prié pour vous, a prié pour moi, afin que vous soyez sanctifiés, que vous viviez une vie en conséquence aussi, en obéissance à ce que Jésus nous donne. Parce qu'il sait, lui, c'est quoi le véritable bonheur, et que ce bonheur-là est dans cette relation-là intime avec lui qu'on peut avoir, qu'on a, mais dans la mesure où on marche dans sa parole. Ta parole est la vérité. Mais peut-être que vous n'êtes pas comme moi. Moi, je dois vous confesser une chose. J'ai connu le Seigneur dans les années 85. Et dans ma vie chrétienne, puis même il m'arrive encore des fois d'avoir des périodes où pourtant je sais des choses sur le Seigneur. Je sais des choses, je connais des choses. Puis, à quelque part, des fois, je deviens moins sensible, même si je sais toutes ces choses-là. Je deviens moins sensible à ce que Jésus me montre dans sa parole, des fois. Moins sensible à prendre un temps à prier avec lui. Moins sensible à vouloir vivre une vie de sanctification avec lui. Et à quelque part, être moins passionné même par ce qu'il est et par ce qu'il a fait. Puis, j'écoutais les nouvelles cette semaine et y a-t-il quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi le film qui a sorti cette semaine? Comment il s'appelle? Star Wars, qui a coûté des millions et des millions. Pensez à ça un instant. Peut-être que vous avez vu les... Moi, j'ai un certain âge, j'ai vu les premiers et tout ça aussi avec Luke Skywalker. En tout cas, Sky quelque chose, là. Et là, tu vas voir ces films-là de science-fiction-là. Là. Puis ça vient te chercher. Là. Ça te montre les bons, les mauvais, tout ce que c'est qui peut se faire. Ça vient te chercher vraiment, t'es impressionné vraiment. Tu contemples tout ça, tu regardes tout ça, puis ça te touche vraiment, tu es émerveillé, ça te remplit de joie. Mais c'est de la science-fiction. Ben bon sang, Jésus est venu dans ce monde. Puis ce n'est pas de la science-fiction. C'est ce qu'il dit. Mais comment je devrais encore, à chaque dimanche, au pas du Seigneur, comment je devrais retrouver toujours cet amour, cette joie de savoir que je lui appartiens? Mais je me rappelle, et je dois me rappeler continuellement ce que le Seigneur me demande, d'être sanctifié par la vérité. Mais peut-être que vous êtes quelqu'un qui, ce matin, cherchait la vérité. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui dit, « Moi, je suis venu ici ce matin, puis oui, j'ai entendu tout ça. Oui, je comprends maintenant que Jésus, c'est vraiment la personne qui disait qu'il était. » Mais moi, ce que je veux vous inviter ce matin, c'est vraiment à ouvrir votre cœur. C'est que vous soyez porté vraiment à comprendre, à ne pas vous faire d'image prématurée, puis à dire à Dieu, « Dieu, montre-moi vraiment qui est Jésus. » Montre-moi ce qu'il a vraiment fait pour moi. Montre-moi que c'est vrai que Jésus a donné sa vie pour moi. Montre-moi vraiment qui est Jésus. À la fin de l'Évangile selon Jean, Il dit, ces choses ont été écrites. Tout ce que Jésus a pu dire, tout ce qui a pu se passer pendant son ministère terrestre. Il dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et avoir la vie dans le nom de Jésus, c'est avoir la vie dans le véritable et une vraie vie. Faites encore avec ses problèmes, c'est certain, mais avec toujours la solution parce qu'on lui appartient et on sait que tout ça, c'est temporaire. Vous savez, l'apôtre Paul qui a martyrisé, qui a couru après les chrétiens, il n'y a rien qu'il n'a pas fait, un jour, il a entendu la voix de Jésus. Vous savez, quand Jésus a dit « quiconque entend ma voix et dans la vérité entend », bien, Paul a entendu la voix de Jésus. Et il a dit ceci, il a dit « c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde. Pourquoi? Pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Paul, à un moment donné, le déclic s'est fait. Bien, ce matin, notre prière, à vous qui cherchez peut-être encore la vérité, c'est que ce déclic-là se fasse. C'est que vous compreniez que la crèche, lorsque Jésus est venu ici-bas sur la terre, il y avait une mission, il y avait un objectif, c'était de se rendre jusqu'à la croix. C'était la raison même de sa venue ici-bas sur la terre. Et lorsqu'on pense maintenant au témoignage de Noël, lorsqu'on pense un peu au travers de tous ces chants qu'on a chantés ce matin, on veut se rappeler d'une chose, c'est qu'au-delà du moment de Noël, de savoir c'est quand et tout ça, c'est pas important, mais un jour, il s'est passé un événement unique sur la terre, Jésus est né. Et dans ce Jésus-là qui est né, il y avait tout le plan du salut pour l'humanité qui était là. En ce petit bébé qui allait grandir, le plan de Dieu pour le salut était là. Et c'est pour ça que les anges ont pu dire, il vous est né un quoi? Un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et dans ce plan-là de Dieu, c'est toute une bonne nouvelle parce que ça montre l'étendue de l'amour de Dieu pour vous et pour moi. Et ça vous donne une espérance lorsque vous acceptez d'être dans la vérité. Une espérance que les autres n'ont pas. Et une assurance de lui appartenir et que vous savez que vous serez pour lui, avec lui pour l'éternité. Donc Jésus est beaucoup plus qu'une petite figurine qu'on se plaît à mettre dans une crèche à Noël, puis qu'on va serrer après, puis qu'on va mettre de côté jusqu'à l'année prochaine. Noël, dans le fond, c'est l'histoire de Jésus, oui, mais de Jésus qui devait naître, c'était annoncé, qui devait naître à Bethléem, qui devait vivre une vie parfaite, sans péché, sans désobéir, ni en pensée, ni en action. Il devait vivre cette vie-là, mais il devait se rendre jusqu'à la croix. Et se rendre à la croix par amour pour vous, pour moi. Et subir à votre place et à ma place le châtiment que je méritais à cause de mes péchés. De subir à votre place la condamnation qu'on méritait. Mourir sur cette croix-là, mais ressusciter quelques jours après. Démonstration ultime que Dieu a mis son sceau et a agréé le sacrifice de son Fils. Et Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. C'est pour ça que oui, c'est agréable à Noël et tout ça, mais chaque dimanche aussi de se rappeler de ce sacrifice-là, que Jésus est vivant, ça nous réchauffe le cœur. Et Jésus devait tout faire ça. Mais vous savez quoi? Jésus doit revenir aussi. Il a promis. Est-ce que vous croyez ça? Moi, je le crois. Moi, je crois tout ça. Et c'est en ce Jésus-là que je crois et je sais que je suis dans le véritable. L'êtes-vous? C'est une question que vous devez vous poser. Et ma prière ce matin, c'est que personne ici puisse sortir d'ici sans avoir cette assurance-là en lui. Et vous savez, souvent on voit des images de Noël avec, on voit la crèche, le sapin illuminé. Mais moi, ma prière, un peu comme les lumières, quand vous allez en voir le 25 décembre, vous en avez déjà chez vous, c'est que ces lumières-là, quand le sapin qui éclaire, bien que vous puissiez être illuminé aussi par le Saint-Esprit qui puisse vous convaincre de ce que Jésus est vraiment et que vous puissiez vraiment l'accepter. Et que là, à ce moment-là, lorsque vous allez dire, ben, joyeux Noël, vous allez avoir toutes les raisons du monde d'avoir la joie, parce que vous allez être dans le véritable. Prions pour terminer. Oh Dieu, notre Père, quel privilège on a de connaître ton Fils. Seigneur, c'est une grâce que tu nous as fait un jour. Plusieurs d'entre nous qui sommes ici ce matin, ben, on ne te connaissait pas, mais un jour, tu t'es révélé à nous. Tu nous as montré ton amour manifestant Jésus-Christ à la croix. Merci de ce que ton Fils nous a aimés au point de donner sa propre vie, de subir la condamnation qu'on méritait. Et notre prière, Seigneur, c'est que pendant cette période de Noël, cette période des fêtes, tu nous aides comme étant à être des témoins véritables aussi autour de nous et à propager cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et Seigneur, s'il y a des personnes ici dans la salle qui ce matin ne te connaissent pas personnellement, que tu puisses, au travers de ce qui a été dit, leur rappeler vraiment des choses et puis qu'ils puissent saisir par la foi cette grâce, Seigneur, que tu leur offres ce matin comme un cadeau que rien ne peut égaler ici-bas sur la terre. Bien, sois béni, notre Père, pour ce merveilleux salut en ton Fils. Amen.